Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage ce soir. La France qui s'enfonce dans la crise politique et qui s'apprête même à plonger dans l'inconnu alors que le gouvernement Barnier vit peut-être ses dernières heures, ses derniers jours, moins de trois mois après son entrée en fonction. Sans majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter le financement de la sécurité sociale, le Premier ministre a donc finalement choisi d'activer le 49-3, engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement au risque de la censure immédiatement annoncée par la gauche et par le Rassemblement national également. Bras de fer ou suicide politique annoncé, c'est un moment de vérité, a plaidé Michel Barnier au perchoir de l'Assemblée cet après-midi. On l'écoute.
Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Et cela, où les Français appellent et attendent de la stabilité. Attendent de la visibilité pour les entreprises et pour leur vie quotidienne. À un moment, et je sais de quoi je parle, où notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes.
Et voilà pour toute la détermination du Premier ministre. Bonsoir Stéphane Zumsteig.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Merci de nous rejoindre sur RFI. Pourquoi, selon vous, le Premier ministre a finalement opté pour l'arme nucléaire parlementaire, ce fameux 49-3, au risque de voir son gouvernement renversé ?
Et parce qu'il y était contraint, parce que la situation est totalement bloquée. On le sait, ça c'est depuis le second tour des élections législatives. L'Assemblée nationale est profondément divisée. Il n'y a aucun moyen d'obtenir une majorité, ne serait-ce qu'une majorité de projet sur tel ou tel texte. Et dans le cas bien précis de ce 49-3 et de la décision du Premier ministre, il y a aussi le fait que le bras de fer qu'il a entamé avec le Rassemblement national, eh bien, a également abouti à une impasse, parce que même si au début il a souhaité ou il a montré des signes pour pouvoir accepter un certain nombre de propositions du Rassemblement national, on voit bien que le RN faisait monter la pression et que même si Michel Barnier se montrait compatissant et plutôt bienveillant à l'égard de l'intégration dans le projet de loi de certaines mesures demandées par le RN, eh bien ça ne suffisait pas et que le RN lui-même était entraîné dans une spirale où à chaque compromis offert par le Premier ministre, eh bien, il en demandait encore plus. À un moment donné, je pense qu'il le dit lui-même, Michel Barnier prend à témoin les Français et met la classe politique, pas que le RN, hein, toute la classe politique devant ses responsabilités. Mais la situation, depuis les élections de début juillet, n'a à aucun moment bougé d'un iota.
Vous dites Michel Barnier n'avait pas d'autre choix pour ne pas céder au chantage du Rassemblement national.
Alors, au chantage du Rassemblement national, mais aussi à la situation extrêmement compliquée en ce qui concerne le socle commun. Tout n'est pas de la responsabilité du Rassemblement national. La gauche aussi. La gauche a toujours dit qu'elle censurerait Michel Barnier, quels que soient les textes, quel que soit le moment. Là, c'est vrai, il y a une vraie différence. Le RN n'était pas officiellement dans une opposition frontale. C'est assez inédit comme situation. Évidemment, on voit là la patte de Marine Le Pen, qui a réussi ces 10 dernières années à institutionnaliser davantage son parti. Mais, et c'est singulier, elle a été un petit peu piégée, ce parti a été un petit peu piégé dans cette séquence politique bien définie, parce que le parti a été débordé par ses sympathisants. Et ça, le RN ne s'y attendait pas forcément. Les sympathisants du RN réclament toujours, majoritairement, très majoritairement, que leur parti censure ce gouvernement. Marine Le Pen, elle aussi, elle a des contraintes, comme Michel Barnier, et elle a décidé finalement de jouer la carte de son opinion interne, plutôt que d'apparaître quelque part comme quelqu'un ou représentant un parti trop mou et trop bienveillant, trop prêt à des compromis, voire à des compromissions, avec un gouvernement de centre-droit et de droite qui ne correspond pas aux attentes de son électorat.
Alors rendez-vous mercredi pour voir si les censures seront ou non votées. Est-ce que, selon vous, la chute du gouvernement Barnier est inéluctable?
Oui, là, on voit mal comment on pourrait assister à un autre scénario, parce que le projet de loi, la responsabilité a été engagée sur la base d'un texte. On ne peut plus négocier dans les 48 heures qui viennent. Michel Barnier ne peut pas céder ou ne peut pas accepter un certain nombre de compromis avec tel ou tel parti, notamment avec le Rassemblement national. Le RN a été très clair ce matin. Jordan Bardella l'a dit. À part un miracle, si Michel Barnier était en état de grâce, eh bien, de toute façon, son parti a été contraint, ce sont ses mots, de voter la censure. On imagine mal le RN changer de stratégie. Ça le rendrait un petit peu ridicule, je pense. Donc, ils vont aller eux aussi jusqu'au bout. Je ne vois pas comment Michel Barnier évite la chute de son gouvernement.
Alors, si le miracle ne vient pas, on l'a bien compris, du RN, est-ce qu'il pourrait venir de certains députés socialistes? On dit qu'il en faudrait 44 pour éviter que ces censures ne soient votées.
Oui, 44 sur 66, donc exactement les deux tiers du groupe parlementaire PS. Bien sûr que les lignes commencent un petit peu à bouger au sein du Parti Socialiste, dans son aile en tout cas la plus centriste, on va dire, et la moins arrimée au nouveau Front Populaire, et celle qui est la plus qui souhaite le plus s'émanciper de la tutelle ou en tout cas de la pression de la France insoumise. Maintenant, il y a un vrai problème. La gauche est profondément divisée, on a raison de le dire en France, idéologiquement et sur un certain nombre d'autres aspects, mais quand vous êtes député de gauche, notamment socialiste, vous devez votre élection dans la quasi-totalité des cas à ce cartel électoral qu'ont été la NUPES il y a 2 ans, puis le nouveau Front Populaire il y a quelques mois. Si vous avez été élu, c'est parce que vous étiez le seul candidat de gauche dans votre circonscription. Bouger un petit peu les lignes et accepter finalement décider de ne pas censurer le gouvernement de Michel Barnier, c'est pour un député ou pour une députée PS développer le risque de se voir envoyer un candidat de la France insoumise lors des prochaines élections législatives qui pourraient intervenir à l'été prochain au plus tôt. Et ça, c'est une vraie pression qui pèse sur le parti, qui pourrait se faire effacer de l'Assemblée nationale dans ce cas-là, et surtout individuellement sur les députés. Faire ce choix-là, ne pas suivre finalement la ligne politique que souhaitent imposer Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, c'est prendre le gros risque d'être éliminé, de perdre son siège dans quelques mois.
Donc on ne croit pas au miracle. Si le gouvernement tombe mercredi, est-ce qu'on a raison de parler de séisme politique? Est-ce que la France entre vraiment dans des grosses turbulences?
Parce qu'on a beaucoup
Est-ce
parlé
que le mot
de,
est trop fort
on, alors on a beaucoup parlé de chaos politique pour illustrer la séquence actuelle. Je pense que le mot est trop fort pour l'instant. Pour l'instant, la situation, elle est bloquée, elle est politiquement bloquée. C'est une nouveauté dans la Ve République, il n'y a plus de majorité absolue dans l'Assemblée, et on n'est même pas dans un système un peu classique de cohabitation, où vous avez un bloc qui s'oppose à un autre bloc. On est dans la tripartition, les partis politiques n'arrivent pas, et le Premier ministre n'arrive pas à dégager une majorité. Là, on saute vraiment dans l'inconnu, parce que ce sera très compliqué pour le président de la République de trouver une solution alternative. On le voit bien, il n'y a pas de majorité. Oui, arithmétiquement, on peut imaginer des formules, mais on voit bien que le personnel politique ne suit pas parce qu'il est profondément divisé. Et je viens de le dire parce que dans certains cas, il a peur des prochaines échéances électorales. Oui, là, on rentre dans une période d'inconnu. Est-ce que ce serait le chaos politique? Je n'en sais rien. On n'en est pas encore là. Mais il est sûr que si Emmanuel Macron se retrouve dans l'impossibilité de trouver un autre Premier ministre, de plus en plus, la petite musique d'une grande clarification va commencer à se développer. Qu'est-ce que j'entends par grande clarification? Comme on ne peut pas dissoudre pour des raisons institutionnelles l'Assemblée nationale avant l'été prochain, de plus en plus de gens vont commencer à se dire, et surtout dans la classe politique, y compris dans le propre camp du président de la République, que la seule solution, ce sont des nouvelles élections, une nouvelle élection présidentielle. Et là, on bascule dans autre chose avec, peut-être, mais on fait de la politique fiction pour l'instant et on n'en est pas encore là, de plus en plus de gens qui vont demander la démission du président de la République parce qu'il faut des nouvelles élections, une nouvelle élection présidentielle.
Est-ce que le scénario existe? Est-ce que l'étau se resserre avec la chute du gouvernement autour de la démission de Macron que réclame, selon un sondage, 63% des Français?
Oui, alors il la réclame parce que la question est posée, parce que évidemment Emmanuel Macron est dans une situation, à un niveau de popularité historiquement bas, et le problème c'est qu'il est détesté d'une partie de l'électorat. C'est vraiment ça, il y a vraiment son équation personnelle, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des Gilets jaunes, mais le fait que les Françaises et les Français n'aient pas compris et donc n'aient pas accepté cette dissolution. Il considère que c'est Emmanuel Macron le principal responsable de ce blocage. Ce n'est pas le seul, de mon point de vue. Toute la classe politique porte une responsabilité, mais c'est lui qui a déclenché cette dissolution totalement incomprise et qui a été considéré comme une sorte de bras d'honneur par une partie des Français après la défaite d'Emmanuel Macron aux élections européennes. Là, on se trouverait dans une situation où de plus en plus de personnes réclameraient sa démission. Alors, qu'ils viennent du Rassemblement national ou de la gauche, ce n'est pas un problème. Ce sont des oppositions. Mais combien de temps pourrait encore tenir ? Je ne parle pas du socle commun, là. Je parle des partis issus de la Macronie. Il y a un moment donné où une partie de ce personnel politique va commencer à se dire qu'il faut se séparer du président de la République.
Ça a déjà commencé. Il y a l'ancien patron de la droite, Jean-François Copé, qui réclame cette démission du président comme la solution possible à la crise politique actuelle. Il y a même le centriste, Charles de Courson.
Et oui, ce sont des mauvaises nouvelles pour le président. Je pense qu'il n'est pas encore dans une situation où il est vraiment en danger. Mais évidemment, si cette crise politique, enfin ce blocage politique se transforme en crise politique et qu'on est dans et qu'il est dans l'incapacité de nommer un Premier ministre lui-même capable de dégager une majorité, serait-ce que majorité relative étriquée, là se posera le problème de la grande clarification. Et par grande clarification, j'entends une nouvelle élection présidentielle suivie d'élections législatives qui pourraient permettre à une nouvelle majorité absolue de se dégager. Mais là encore, j'insiste, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années de tripartition, la gauche, le bloc central macroniste, le Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que qu'une nouvelle élection présidentielle suivie d'une élection législative dans quelques mois clarifierait cette situation. On n'est plus du tout dans la situation qui a prévalu depuis 1958, en gros de deux blocs, la gauche et la droite, occupant le pouvoir alternativement parce que disposant d'une majorité absolue. Aujourd'hui, le mode de scrutin pour les élections législatives ne permet plus de dégager une majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors que c'était la grande force de ce mode de scrutin jusqu'à 2022.
On va revenir sur ce blocage de l'Assemblée nationale. Si le gouvernement est renversé mercredi, l'ensemble des textes budgétaires seront définitivement rejetés. Qu'advient-il du budget de la France ?
Alors, on a beaucoup entendu parler du shutdown à l'américaine. Vous savez, si les textes ne sont pas votés, notamment les textes budgétaires, les fonctionnaires ne sont plus payés et l'État ne peut plus rien faire. C'est totalement faux en France. Évidemment, il y a toujours la possibilité pour un gouvernement, y compris démissionnaire, de faire passer le budget par ordonnance pour, à minima, expédier les affaires courantes, un peu à l'image de ce qu'a fait Gabriel Attal après la dissolution. Il a présenté sa démission et il est resté ensuite Premier ministre démissionnaire, avec des ministres démissionnaires, pendant de nombreuses semaines. Après, ça pose évidemment un problème, vous ne pouvez pas faire ça pendant 6 mois, alors que, bon, ceci dit, les institutions ne prévoient rien.
La deadline, c'est fin décembre.
La deadline, c'est fin décembre, il y a un moment donné, ce sera assez vite intenable pour le gouvernement démissionnaire ou pour le président de la République, il faudra trouver, parce que le problème n'est pas de nommer quelqu'un, il faut trouver quelqu'un. Et là, quand on passe en revue les différents candidats potentiels, au-delà des coalitions, au-delà de l'ouverture à gauche, il y a très très peu de gens. Michel Barnier, il a été trouvé parce que c'était la seule personnalité de droite proposée par le président de la République qui ne rencontrait pas le veto de Marine Le Pen. Rappelez-vous, Xavier Bertrand, par exemple, ça avait été une hypothèse sérieuse. Marine Le Pen avait tout de suite dit, lui, compte tenu de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il pense du Rassemblement national, nous le censurerons immédiatement, nous ne lui accorderons jamais notre confiance.
C'est toujours, on notera, le RN qui joue les faiseurs de roi dans la vie politique française actuelle.
C'est le RN et la gauche, tout en temps la gauche, sauf que la gauche, quelque part, elle est cohérente, elle est assez droite dans ses bottes, dans le sens où elle dit depuis le début, vous n'avez pas voulu de notre proposition de Lucie Castet, nous vous censurons systématiquement à toutes les occasions. C'est le RN qui a laissé une sorte de flou artistique, toujours au nom de cette respectabilité que Marine Le Pen cherche de plus en plus efficacement, longtemps désespérément et aujourd'hui de plus en plus efficacement à obtenir, qui à chaque fois entretient le flou. Mais là encore, tout ça peut lasser à un moment donné une partie de son électorat.
Est-ce que c'est également l'échec de la méthode Barnier ? On l'avait présenté comme le meilleur négociateur de France après ce qu'il avait fait, après les négociations pour le Brexit. Est-ce qu'il a échoué ? Il a pourtant usé toutes les ficelles politiques à sa disposition, la dramatisation, il n'y a pas de plan B. Il n'est pas d'ailleurs tout à fait tort sur ce thème-là, mais bon, il n'a pas réussi.
Non, il n'a pas réussi. Alors, on a beaucoup, beaucoup souligné ses talents de négociateur au moment du Brexit, mais à l'époque, il représentait l'Europe, c'est-à-dire 27 pays en face du Royaume-Uni. Il était en position de force. L'Union européenne était en position de force face au Royaume-Uni dans ses négociations. Là, c'est différent, c'est que d'un coup, dès le début, il se retrouve tout seul. Tout seul contre une grande partie de la classe politique. La gauche, le Rassemblement national, on l'a dit. Donc, ce n'est pas de de sa responsabilité unique. Il n'est pas le seul responsable. Ce qu'il n'a pas réussi à faire et ce qui a dégénéré très très vite. Alors, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est la faute du socle commun? Je n'en sais rien. Mais très vite, il s'est trouvé confronté à un vrai problème de solidarité gouvernementale et d'autorité. Rappelez-vous, dès les premiers jours, il y avait déjà un certain nombre de polémiques sur tel ou tel ministre disant « Moi, je ne voterai pas en fonction des choix du gouvernement, mais en fonction de mon parti. » C'est assez inédit de le dire. Souvent, quand on est ministre, on pense beaucoup aux intérêts de son parti, bien évidemment. Mais en tout cas, on ne le dit pas. Et les recadrages successifs, notamment du ministre de l'économie, ont entretenu l'idée selon laquelle eh bien, Michel Barnier n'arrivait pas à tenir ses troupes. Même chose quand il a concédé à Laurent Wauquiez, le chef des Républicains, le fait d'annoncer une décision centrale du budget. Là aussi, tout ça illustrait quand même une certaine faiblesse et un manque d'autorité.
Est-ce que les présidentiables, entre guillemets, brouillent encore un peu plus le jeu politique actuel? Je pense à Marine Le Pen, même si elle a cette menace d'inéligibilité suspendue au-dessus de sa tête. Mais Wauquiez, Attal, est-ce que le poids de leurs ambitions joue en contre et participe à ce chaos politique aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça contribue à consterner encore davantage les Français à l'égard du spectacle qui leur est servi. Tout le monde a bien compris que toute une série de responsables, vous en avez cité les principaux, mais il y en a d'autres, jouent le coup d'après, jouent la présidentielle de 2027, ou qui pourrait avoir lieu avant si le blocage politique devait durer trop longtemps, évidemment. Et ça a posé un problème à Michel Barnier, mais ça va poser un problème à toute la classe politique. Il ne va pas sortir grandi de cette séquence. Ça va encore contribuer à creuser davantage le fossé qui est entre les Françaises et les Français, d'une part, et leurs hommes et leurs femmes politiques.
Il y a une immaturité politique des Français où, tout simplement, il n'y a pas de culture de compromis comme cela peut exister en Allemagne.
Mais là encore, c'est le poids de la Ve République. C'est ce qui amène beaucoup d'analystes à dire que la Ve République, elle a très bien fonctionné, mais ses institutions sont à bout de souffle. Elles ne correspondent plus à cette tripartition, à cette division de l'opinion. Vous avez raison de le dire. Dans d'autres pays, quand on est un parti politique, quand on dirige un parti politique, on s'oppose parfois brutalement, violemment à d'autres partis lors de campagnes électorales. Je pense à l'Allemagne, ça pourrait être l'Espagne, il y a plein d'exemples en Europe. Mais on se dit aussi, on sait aussi qu'à un moment donné, il faudra s'entendre pour dégager une majorité à l'Assemblée nationale ou à l'équivalent dans les autres pays. Et là, on l'a bien vu. Alors qu'il y avait arithmétiquement la possibilité, non pas d'avoir une majorité absolue, mais entre le bloc macroniste et la droite républicaine, de disposer d'une majorité, certes étriquée, mais que les choses pouvaient avancer, eh bien, ce sont les ambitions personnelles qui l'ont emporté, d'une part, et cette immaturité ou cette absence de culture du compromis de la part de la classe politique, parce que, et c'est bien le problème en France, quand vous êtes un parti politique, vous voulez asphyxier, non pas votre adversaire qui est à l'autre bout de l'échiquier, mais asphyxier le parti qui est le plus proche du vôtre, pour disposer du plus d'espace possible, du plus d'espace électoral, que vous soyez de droite ou de gauche. Mais c'est comme ça de plus en plus. C'est qui le principal ennemi des macronistes? C'est Laurent Wauquiez. C'est qui le principal ennemi de Laurent Wauquiez? C'est les macronistes. Ce n'est pas le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas le Rassemblement National.
Comment on peut tenir comme ça jusqu'à la prochaine présidentielle de 2027? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette instabilité chronique est supportable avec, pour chaque Premier ministre qui succédera à Michel Barnier, cette épée de Damoclès et cette censure du RN qui pèsera sur son mandat?
J'ai du mal à imaginer comment la vie politique pourrait se structurer et qu'un gouvernement ou des gouvernements pourraient légiférer avec une certaine fluidité jusqu'à 2017. La prochaine étape, c'est le début de l'été avec une éventuelle, je ne sais pas si elle est sûre ou pas, c'est une décision du président de la République, mais il faudra à nouveau ce qu'il avait appelé une clarification. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on organise des nouvelles élections législatives que le rapport de force et la structuration de la vie politique va changer. Il y a une tripartition, et bien si ça se trouve, lors des prochaines élections législatives, on aura exactement la même chose et on n'aura pas avancé d'un pouce.
Conséquences de cette crise politique sur la scène internationale et peut-être sur la scène européenne? C'est une perte de puissance pour la France.
Une perte de puissance et une perte d'influence. Hein. On a beaucoup parlé du Mercosur ces dernières semaines, que la France avait du mal à trouver des alliés. Elle en a trouvé. Mais il est évident que quand vous êtes un Premier ministre ou un Président de la République, y compris quand vous n'appartenez pas au même camp, quand c'est le cas aujourd'hui, eh bien, quand vous voulez taper du poing sur la table dans des négociations européennes ou internationales, eh bien, on vous regarde peut-être avec moins de, je ne vais pas dire moins de respect, mais en tout cas moins d'autorité, moins d'influence que quand vous êtes ultra-dominant, ultra-puissant et que vous disposez d'une majorité.
C'est dramatique alors qu'on est avec ces deux guerres, notamment en Ukraine, notamment au Proche-Orient. La voix de la France ne compte plus.
C'est une mauvaise nouvelle pour la France, c'est vrai, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Il y avait trois grandes puissances, trois principales puissances politiques, économiques ou diplomatiques. Le Royaume-Uni est parti. la France et l'Allemagne avec Olaf Scholz, aujourd'hui sont dans une situation politique très instable.
Merci Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Merci de nous avoir rejoints sur RFI. Merci à Éléonore Krenik, à la cellule invitée, et à la réalisation ce soir, Mal Guyot.